J'étais là et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il m'a montré que comment est-ce qu'il forme notre caractère. C'est pas pendant les grands exploits, mais c'est quand on est au lit ou quand on passe par les moments difficiles qu'on n'aime pas et on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, vous regardez pour les dons de l'esprit, pour les choses fortes, et il veut ça aussi, bien sûr. Il ne va pas renier ses dons et tout cela. Mais il dit, moi, je m'intéresse plus aux fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit en vous, le caractère de Jésus. Parce que je lisais ce verset après, que vous connaissez bien, Romains 8, 29. Et c'est venu très fort, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce chapitre de Romains 8, parce que beaucoup dedans. Et Romains 8, 29 est venu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà. Il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés d'être semblables à l'image de son Fils. Et on a parlé de ça, le caractère de Jésus en nous. Et je pensais beaucoup aux hommes de Dieu dans la Bible. Et ça revient tout le temps qu'ils sont tous passés par les moments difficiles avant d'être employés par le Seigneur avec la puissance, les exploits. Je pensais particulièrement à Moïse. Moïse, il a su, plus jeune, qu'il devait délivrer le peuple d'Israël et qu'il allait les délivrer avec les grands exploits de Dieu. Alors, il va avec sa propre force au début. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue un Égyptien parce qu'il veut montrer que le peuple d'Israël était plus important, devait être délivré. Mais il fait avec sa propre force. Et nous, on est comme ça, n'est-ce pas? On veut faire des choses avec notre force à nous. Et le Seigneur dit, attends Moïse, je vais t'employer, mais tu dois attendre 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu a fait là? Il a formé son caractère. Il m'a montré pour aiguiser nos caractères, il faut une pierre dure. Et il est comme le charpentier. Il veut nous aiguiser, il veut nous former. Mais plus tard, qu'est-ce que Dieu a dit sur Moïse? Qu'il était l'homme le plus doux, le plus patient de toute la terre. Et je pensais, lui qui a tué un Égyptien, il était le plus doux de toute la terre. Son caractère était formé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Par la puissance du Saint-Esprit, il a délivré son peuple. C'est formidable. Et le Seigneur vous dit ce matin qu'il veut vraiment vous former à son image. Quelquefois, on dit, Seigneur, combien de temps encore? Mais il nous fait passer par les moments différents. Quelquefois, on fait des exploits avec lui. Quelquefois, il dit de nouveau, je vais vous mettre à côté pour que vous appreniez à marcher avec moi, être à mon image. Et je vous laisse avec ce verset qui semble difficile, mais c'est pour produire en nous le fruit de l'esprit, la patience. Et c'est Jacques, chapitre 1. Chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, un fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit, la patience. Et c'est par les diverses épreuves. Que le Seigneur vraiment vous fortifie, mais vous encourage, parce que quand il veut produire en nous, par les épreuves, le caractère de Jésus, il ne va pas nous faire mal, c'est pour notre bien. Et pour qu'on puisse après le servir encore beaucoup plus dans la joie, mais dans les exploits. Amen. Merci Seigneur.
Oui, d'accord. Merci. Alors, c'est une grande joie pour mon épouse Beryl et moi-même. Merci pour cette parole, Beryl. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis dans la joie parce que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. J'ai pensé à ça ce matin, que le Seigneur est bon. Je suis dans la joie d'être de retour ici parce que il y a déjà 5-6 ans que nous sommes partis de retour à Tourcoing. Nous habitons juste à côté, à Ronque, Beryl et moi. Nous avons une fille qui habite à Barcelone, en Espagne. Et là, dans le sud de l'Espagne, en ce moment, il y a inondation, il y a beaucoup d'eau. Peut-être la terre sèche ici, mais pas là. J'ai entendu ça hier, c'est affreux. Et j'ai pensé à un verset, quand Jean-Luc a parlé, c'est un verset que j'ai reçu en Hollande quand j'étais jeune converti. Dans une réunion, il y avait peut-être 2-3 000 personnes sous une tente. Et le prédicateur, il a prêché sur un verset, « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Le ruisseau de Dieu. La terre peut être sèche, mais le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, je suis content d'être être lié avec le Seigneur parce que son ruisseau est plein d'eau. Et j'ai dit à Jacques, quand j'ai prié avec Jacques et Christine, juste ici ensemble, je dis, il a un verset, peut-être c'est le temps de nos grands-parents, aile de la foi, sur les ailes de la foi, oui. Ce qui parle justement de ça. Non, 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 les ondées de Dieu. Mais je ne me souviens pas, mais les ondées de Dieu. Et le Seigneur va le faire ici. Et quand nous sommes partis ici en paix, de Jean-Luc et Annette, l'Assemblée, je crois qu'on était peut-être 25 à 30 personnes ici. Et de nouveau, on est une trentaine ce matin, ça me fait plaisir. Et quand nous sommes partis, c'était pour aider un ami qui s'appelle Daniel Luban, à Tourcoing, donc il commençait une petite assemblée, je crois qu'on était une quinzaine peut-être là. Quinzaine, et puis après 1 an, 2 ans, il y avait 30, 40... 50, 60, parfois on est 80 à 100. Et surtout les gens viennent quand on a un petit déjeuner avant. Alors, j'aime ça, les Français ils aiment bien bouffer. Alors après, parfois on a un repas après, parfois on a un repas avant. Et donc merci de nous avoir invités aujourd'hui parce qu'on aime bien les cultes et aussi les agapes. Je dis ça comme ça parce qu'il faut faire attention. Je suis très content parce que je me suis pesé ce matin, j'ai perdu 1 kilo cette semaine. Ça fait grand plaisir. Ça, c'est important aussi. Hein. À une femme, on peut encore demander son âge, mais jamais son poids. Ne me demande pas mon poids, parce que je ne vais pas le dire ce matin. C'est un secret. Alors, je suis dans la joie, parce que dans cette assemblée, à Tourcoing, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Nous sommes encouragés. Il y a environ une semaine, dimanche passé, je crois que c'est dimanche passé ou dimanche avant, il y a des jeunes qui ont témoigné. Parce qu'ils étaient dans un camp ensemble, je crois 40-50 jeunes, et ils ont donné un témoignage. Il y avait 5 jeunes, 10 jeunes, 15, maintenant ils sont une trentaine. Et quand il y a des jeunes qui invitent leurs amis, il y a des conversions. Et en ce moment, donc, on est encouragé, pas seulement par les vieilles barbes comme moi, mais il y a encore des jeunes qui arrivent de plus en plus. Et donc, c'est une petite salle, place pour 50-60, il y a des gens debout, même dehors, de temps en temps, peuvent entrer. Nous avons eu notre culte hier soir. Et je viens de dire à Jacques que je suis content ici dans le calme ce matin. Parce que quand on était chez nous encore hier soir, il n'y a pas seulement une guitare, que c'est bien d'avoir juste un guitariste, une guitare. Là, il y a 2-3 guitaristes, il y a un pianiste, et il y a aussi un batteur dans cette petite salle. Et puis, de temps en temps, ça me casse les oreilles. Mais le Seigneur nous aime quand même. Et puis heureusement qu'il est là pour mouiller la terre, parce que parfois on en a bien besoin. Mais c'est le feu en ce moment. Donc merci Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et j'ai prié aussi pour Vavrin ici, pour cette église, parce que je le trouve facilement, parce qu'il met des gens de jeunes à côté. J'espère que ça continue et qu'il y a des jeunes qui viennent ici, des enfants qui viennent ici, que des jeunes viennent. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y viennent pas. Continuez, parce que le Seigneur est fidèle et il veut que nous soyons fidèles dans nos prières aussi. Donc nous prions pour vous. Priez pour vous. Alors ce matin, j'ai un message. Et c'est un message, j'espère, qui va vous aider. Le message, c'est: est-ce que vous êtes disponible pour entendre la voix de Dieu? Quand on prie, c'est une chose. On parle à Dieu, mais est-ce qu'on est prêt à entendre sa voix, sa réponse? Et Dieu veut nous parler justement par cela, parce qu'il y a beaucoup de chants qui parlent de la grandeur de Dieu. Dieu est grand, Dieu est majestueux, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Souvent dans les psaumes, ça revient, ces deux mots. Dieu est bon et fidèle, c'est vrai. Mais nous avons aussi un Dieu qui parle. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Nous avons Dieu qui nous parle, qui me parle. Et je ne serais pas ici si Dieu ne m'avait pas parlé. Donc, Béryl et moi, nous sommes dans la joie d'être ici. Le Seigneur nous a gardés ensemble. Il nous a parlé au début, avant notre mariage. Nous nous sommes retrouvés. Je suis tombé amoureux de ma femme. Je me souviens bien. C'est le 1er septembre 1960, à midi et quart. Je me souviens bien. C'était à Bruxelles, dans un sous-sol. Je me souviens bien, parce que quand il y a la foudre qui tombe, on n'oublie pas. Et puis donc, on est mariés maintenant plus de 50 ans. Merci pour les félicitations. Alléluia. Et c'est merveilleux d'être mariés 50 ans. C'est l'année passée déjà. Donc maintenant, on va vers les soixantaines, les 70, et on continue. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il nous a gardés et il nous a parlé souvent à Béryl et à moi-même. Et je crois qu'il veut le faire pour tous ses enfants, parce que nous sommes tous les chouchous du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Dieu veut nous chouchouter, mais parfois on ne veut pas, on ne se laisse pas faire. Mais Dieu veut nous prendre dans ses bras d'amour et Dieu veut nous parler. Et quand j'ai regardé encore ici dans ma Bible ce matin ici, quand je vois Genèse, Dieu parle et il dit quelque chose et ça arrive. Est-ce que vous le croyez? Quand Dieu vous dit quelque chose, il peut le faire, il a la capacité. Est-ce que vous le croyez? Ça, c'est important. Parce que nous parlons, Dieu parle, et il a la capacité de le faire aussi. Donc Genèse chapitre 1, juste quelques versets pour commencer. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et c'est arrivé. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Ça continue dans le verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Ça, c'est intéressant. Dieu dit qu'il y a de lumière, lumière soit. Il n'y avait même pas la lune, il n'y avait pas de soleil, et puis il y avait déjà la lumière. Ça, c'est déjà un miracle. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et je sais qu'il y a des oiseaux qui sont là, au-dessus de nous. Parfois, ils se mettent sur notre véranda, juste en haut. Et je sais qu'il y a des oiseaux, parce que nous avons un chat, et notre chat crie. Quand il y a des oiseaux, on n'aime pas ça du tout. Alors, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, etc. Dieu a dit une chose, et voilà, nous sommes arrivés sur la terre, nos premiers parents. Et moi, je crois dans la création. Je crois que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, c'est arrivé. Et dans le Nouveau Testament, quand vous voyez en Jean, j'ai beaucoup l'évangile selon Jean, Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Et là, nous voyons encore que Dieu a parlé. Dieu dit une chose et c'est arrivé. Dieu a exprimé ses pensées. Et là, c'est très profond. C'est un petit peu philosophique peut-être, mais c'est profond et merveilleux. Là, nous voyons Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça parle de qui? La parole était la pensée de Jésus, la pensée de Dieu, et c'est donc réalisé en son Fils, le Seigneur Jésus. Il était l'expression parfaite de la pensée de Dieu. Dieu est devenu visible en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc Dieu a parlé. Alors, ça c'est très important, donc Dieu veut nous parler par Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité, alléluia, Jésus ressuscité, et avant de partir, avant de monter au ciel, il a promis pour vous et pour moi le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter la vie en abondance, et nous pouvons expérimenter que Dieu nous mouille le cœur que nous avons par son Esprit Saint. Alléluia. Je n'ai pas toujours cru que Dieu parle aujourd'hui, car dans l'église où je suis converti, c'est en Hollande, à Haarlem, alors on ne croyait pas, comme nous croyons vraiment, que Dieu nous parle directement. J'en parlerai après. Je n'ai pas appris ça non plus sur l'Institut public, à l'Institut public à Bruxelles. C'était évangélique, mais on ne croyait pas que Dieu nous parle directement. Et quand j'ai fait mes études, donc c'était intéressant, mais pas cette dimension du Saint-Esprit. Et il y a certaines églises en Angleterre, aux États-Unis, mes parents sont allés là, donc je connais des églises aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, en Hollande, bien sûr. Donc j'ai connu des églises, mais on ne croit pas que Dieu nous parle directement. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais Dieu n'est pas limité par l'homme, et Dieu veut nous parler aujourd'hui. Souvent, nous avons limité Dieu, mais tout a changé. Même dans notre service pour le Seigneur, jusqu'à 84, nous sommes arrivés en 62, donc il y a 50 ans déjà, nous sommes arrivés en France, Beryl et moi, comme missionnaires en plein temps. Nous sommes arrivés dans le Massif central, au Chambon-sur-Lignon, c'est là qu'on a commencé. Mais on était dans les assemblées, dans certaines assemblées évangéliques, mais on ne croyait pas que Dieu parle directement. Tu as connu ça aussi au début. J'ai connu Annette quand elle était jeune fille. Belle, dynamique. Elle est toujours belle et dynamique. C'est à l'eau vive à Lille. Tu avais 16, 17 ans. Tu connaissais même pas Jean-Luc. Mais Jean-Luc t'a trouvé une fois. C'était, je crois, le 32 décembre, non? Non, c'est pas. Quand est-ce que c'était environ? Quelle année que vous êtes? Hein? 76. Donc c'est juste 15 ans, un petit peu plus tard que nous. Alors moi je me souviens, et puis tu nous as invités à votre mariage. Et là j'ai joué à l'orgue à Lille. Donc je connais un petit peu leur... Et puis maintenant vous avez donc 3 filles, 2 petits-enfants. Voilà. Continuons. C'est bien. Alors c'est merveilleux, donc on se connaît longtemps, et le Seigneur a été bon, mais vous avez connu aussi, et d'autres ici peut-être, maman, dans les assemblées, dans les églises, et les gens, Dieu les aime juste de la même façon que nous, mais Dieu veut nous parler directement, et ça c'est une chose certaine. Mais en 1984, Beryl et moi, nous avons été invités par un homme qui s'appelle Floyd McClung, qui était le directeur en Europe pour Jeunesse en Mission. Et c'était un petit peu difficile pour nous en ce moment-là en France. Il nous a invités dans une conférence pendant au séminaire pendant 3-4 ans, 4 jours dans une réunion évangélique charismatique. Et moi, je voyais toujours rouge. Je dis, mais les charismatiques, ils parlent toujours la même chose, guérison, miracle, parler en langue. Et il y avait des amis qui étaient peut-être espagnols ou italiens d'origine. Il ne parlait même pas bien le français. Je dis, mais alors parle en langue. Je ne comprenais pas bien tout ça. Et puis donc, moi je voyais rouge quand on parle de ces choses, de guérison, tout cela. J'étais contre. Mais là, en 84, le Seigneur a mouillé mon cœur. Il a touché mon cœur. Comment? Par l'amour de mes frères et sœurs. Des gens que je connaissais pas, 200, 300 personnes, ils ont vraiment touché mon cœur. Et là, tout a changé. Pour Beryl et moi-même, donc nous sommes entrés dans une dimension du Saint-Esprit qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait et que je jugeais. Et Dieu a eu vraiment pitié de moi, compassion de moi, et je connais la compassion, je connais le cœur de Dieu, je crois, pour moi en tout cas. Parce que son amour est merveilleux, et Dieu est merveilleux. Alors Dieu veut nous parler aujourd'hui, donc il veut parler à notre cœur, il parle de différentes façons. Bien sûr, il parle d'abord par la parole de Dieu, ça c'est sûr. Mais il peut faire aussi directement par le don du Saint-Esprit. Béryl a parlé justement du caractère, et c'est certain. La première chose que Dieu veut voir dans votre vie, c'est le caractère de Jésus, par les fruits de l'Esprit qu'on trouve en Galates 5, ça c'est sûr. Mais ensuite aussi, on trouve en Romains 12, Romains 14, 1 Corinthiens 12, c'est ça, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, on trouve aussi donc les dons du Saint-Esprit. C'est ça, non? Vous êtes d'accord? Je suis content comme ça, je suis bien. Je suis en paix. Alors le Seigneur veut employer ces dons qu'il a pour vous. Et parfois, on ne connaît pas encore ces dons, mais il y a des dons, donc dons de prophétie, dons de parole de sagesse, dons de connaissance, ou par une interprétation du parler en langue. Dieu veut se manifester de différentes façons. Est-ce que vous cherchez ces dons? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a pour vous? Ça, c'est une chose importante. Dieu peut aussi se manifester par une image qu'il vous donne, par une impression forte, par une parole reçue, ou par une vision ou un songe. Et le Seigneur m'a parlé parfois, c'est vrai. 5, 6, 7 fois peut-être Dieu m'a parlé directement par un songe. Et c'est arrivé, donc le Seigneur nous a dirigés. Le Seigneur nous a dirigés par toutes sortes de moyens, par un songe, par d'autres moyens. Nous sommes en France depuis 62, mais nous avons été dirigés par le Seigneur vers 7 maisons différentes et 7 églises différentes. Donc on a eu vraiment, chaque fois le Seigneur a fermé une porte, il a ouvert une porte. Et ça c'est important, expérimenter la direction de Dieu, mais d'une façon claire, par des circonstances, ou par une parole, ou par un songe, Dieu veut nous parler. Dieu ne veut pas qu'on devienne stagnant, que c'est le train-train, c'est la tradition, il veut nous renouveler. Il veut vraiment faire quelque chose. Et je pense, il faut être disponible. C'est la disponibilité à ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Et donc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 10 et 18, donc Dieu veut nous parler pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Souvent, le Seigneur veut nous parler par des circonstances ou par des rencontres divines. Et ça, c'est merveilleux. Le Seigneur nous a donné des rencontres divines qu'on ne soupçonnait pas, ici en France et dans d'autres pays. Parfois 2, 3 par semaine. On a vraiment eu, ça peut être par téléphone ou ça peut être direct, ça peut être dans les marchés. Nous habitons à Ronc, tout près d'Auchan, Auchan Ronc. Et c'est pour moi Auchan missionnaire. Quand je vais à Auchan, c'est Auchan missionnaire. Et souvent, nous avons des rencontres merveilleuses, même à Auchan, là, des gens qui nous parlent. On a des contacts avec des caissières parfois. Et puis, je dis, mais comment tu t'appelles? Angélique. Je dis, mais Angélique, comment bien? Le Seigneur parle par des anges aussi. On parle, et de temps en temps, on demande les noms, et on explique un petit peu leurs prénoms. Et puis, Dieu veut nous parler de contact. Est-ce que vous voulons entendre la voix de Dieu? Ça, c'est une chose importante. Donc, pas tous les chrétiens, les vrais chrétiens, croient que Dieu parle encore aujourd'hui. Ils disent qu'il est 2000 ans, maintenant, donc la Bible est complète, c'est le canon complet, donc Dieu ne se sert plus de ces dons qu'on trouve dans la Bible. Mais j'ai mis sur ma feuille, dans ce cas, pourquoi continue-t-il quand même de pratiquer ce qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament, tel que la Sainte Cène, ce qu'on vient de prendre, ou le baptême, pourquoi on continue, ou la prière, parce que c'est aussi dans la Bible il y a 2000 ans. Donc ils prennent une chose, mais pas l'autre, et ça c'est illogique. Mais je dis pas cela sans juger. En jugeant, je veux pas juger. Donc, mais ce n'est pas logique qu'on prend une chose, mais pas d'autre. Donc merci Seigneur pour avoir touché mon cœur un jour. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est un verset que j'ai mis dans ma chambre juste après ma conversion. Hébreux 13, verset 8. Ma chambre était pleine de versets contre le mur. C'est pas si ma maman m'a apprécié cela, mais j'avais des versets partout. Parce que je suis le premier converti dans ma famille. Une famille avec 3 enfants, j'ai 2 frères et 1 sœur. Et mes parents se sont convertis après moi quand ils étaient aux États-Unis. Quand ils avaient 54, 55 ans, ils se sont convertis après moi et ma sœur aussi. Et mes deux frères, je continue de prier pour eux. Et Dieu m'a parlé, avant ma conversion déjà, j'avais 21 ans, il m'a parlé fortement par Ésaïe 50, versets 4 et 5. Et j'aimerais bien qu'on le lise ensemble parce que Dieu veut nous parler. Avant ma conversion donc, Dieu me parlait déjà, je ne connaissais pas la Bible, donc parce que je ne connaissais pas la Bible, j'ai ouvert ça. Normalement ça tombe dans les psaumes quand on est ignorant, mais cette fois pour moi ça tombe sur Ésaïe. Je ne connaissais rien de la Bible, mais j'avais une Bible à la maison. J'étais malheureux, je ne me sentais pas bien, j'avais mon travail à Amsterdam, j'étais dans les télécommunications, mais je n'étais pas satisfait, je cherchais quelque chose d'autre. Donc j'ai pris une Bible, j'étais dans ma chambre, j'étais à genoux devant mon lit, je n'étais pas chrétien. Et j'ai dit, Dieu parle-moi. Et Dieu m'a parlé, donc avant ma conversion, c'était, je me souviens bien, c'était le 9 novembre 58. Et je ne savais pas, c'était dans un groupe de jeunes, pour la première fois, j'ai été invité, je suis allé, et je ne savais pas, jusque maintenant, il y a seulement quelques mois, je ne savais pas si c'était encore un samedi soir, et un dimanche, ou un dimanche soir. Et j'en parle, je donne mon témoignage dans une famille polonaise. Franco-polonaise. Et je parle là, et je parle de mon témoignage, je dis à cet homme, je me suis converti le 9 novembre 58, mais je me souviens pas si c'était samedi soir ou dimanche. Il dit, c'est un dimanche soir. Je dis, comment tu le sais? Il dit, c'est le jour-là que je suis né. C'est de sa naissance. Mais il n'était pas conscient, c'est sa maman qui a dit que c'était un dimanche, autrement il ne l'aura pas su. Mais ça, c'est fort, hein, quand même. Donc, maintenant, je sais que c'est un dimanche soir dans un groupe de jeunes. C'était vers 9h30 le soir. Et là, donc, c'est toujours tout précis. Mon mariage, je sais que, c'est le 23 décembre, ça, il le sait, bien sûr. Et puis, quand on s'est rencontrés, mais aussi ma conversion. Je sais quand. Parce que j'étais tellement frappé par cela. Et dans ce verset, on trouve quelque chose. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole, celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Donc Dieu veut me parler. Pour que j'écoute, comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Et ma prière ce soir-là, avant d'être converti, je dis, qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Est-ce que je dois continuer? Ou est-ce que je dois changer? Et le Seigneur m'a dit donc, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Donc maintenant, fonce. Va dans cette réunion où tu es invité. Donc c'est un jeudi soir que j'ai prié cela, et le dimanche soir, trois jours plus tard, je me suis converti. Et c'est la première fois que j'étais dans une réunion d'évangélisation avec les jeunes, ils étaient 40-50. Et vous savez ce qui m'a frappé? C'était pas le message. Le message, c'était pas un message d'évangélisation. Tu me souviens encore de quoi ils ont parlé. Mais c'était la prière des jeunes. Quand ils ont parlé avec Dieu, j'avais l'impression que Dieu était là. Et Dieu était là. Mais ils parlent avec Dieu de tout leur cœur, ils partagent. C'était vivant, c'était quelque chose. C'était pas la prédication, mais c'était l'ambiance, c'était l'ouverture. Le ciel était ouvert. Les jeunes parlent avec Dieu. C'est des jeunes de mon âge, plus jeunes. Et j'ai été vraiment touché par ça. Donc la prière, c'est important. Quand on prie avec le cœur, ceux qui connaissent pas le Seigneur, ils sont touchés quand même. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas une tradition, c'est vivant. Et le Seigneur m'a parlé et je me suis converti et je ne l'ai jamais regretté. Mais dans ces deux versets, versets 4, 5, on trouve déjà ce que le Seigneur avait pour nous, pour Béryl et moi, parce que le Seigneur nous voulait plus tard dans la relation d'aide. Pour secourir justement ceux qui sont abattus. Pour recevoir une parole et donner cette parole du Seigneur. Et donc pendant des années, nous avons fait des formations dans la relation d'aide Béryl et moi. Et comme pasteur, j'ai été pendant 25-30 ans, j'avais mon église à moi à Tourcoing. J'ai été pasteur d'une église et puis combien on en a besoin de sagesse et encourager le peuple de Dieu. Parce que quand on devient chrétien, les problèmes ne sont pas partis, le contraire parfois. Parce qu'on est seul dans la famille. On nage parfois dans les problèmes. Donc, on a besoin d'encourager, soulager, avoir de la sagesse, le discernement. Et je crois beaucoup de chrétiens, ils manquent de sagesse, manquent de discernement. Ils se lancent dans les affaires, ils marient avec des gens qui ne sont pas pour eux. Combien c'est de mauvais choix, combien on voit ça, et plus tard on trinque. Combien de fois j'ai vu des chrétiens, chrétiennes engagés, et qui s'engagent avec les gens qui ne sont pas engagés, ou qui ne sont même pas chrétiens. Le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas quand on donne des conseils. Ils n'écoutent pas la voix de Dieu à travers les serviteurs de Dieu. Et nous sommes tous appelés à être serviteurs de Dieu. Et si on a, peut-être il y a des personnes ici, vous avez fait de mauvais choix. Sachez que Dieu peut redresser, c'est jamais trop tard. Dieu est là pour redresser et pour guérir les cœurs blessés. Alléluia. Donc le Seigneur a parlé à mon cœur, et après cela je me suis converti, donc le dimanche soir, et la première chose que Dieu m'a dit, John, je t'aime. J'étais dans un moment difficile, j'étais au lit et j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a dit, John, je t'aime. Et ça, c'est une chose qui m'a tellement touché. L'amour de Dieu, c'est merveilleux. Et normalement, quand je donne des messages, je parle toujours de l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux sur terre. Alors, je viens de lire un livre il y a quelque temps, écrit par un homme qui s'appelle Jack Deere, américain, professeur dans une école biblique, une école évangélique mais pas charismatique. Mais cet homme voulait plus, comme moi je voulais plus. Et un jour il est dans son bureau, donc lui il donnait des cours sur le grec je crois et l'hébreu, et il est dans son bureau, il dit, il y avait un jeune étudiant qui frappe et qui entre et qui veut parler avec cet homme professeur Jack Deere. Et Jack Deere, il a écrit un livre qui s'appelle « Surpris par la voix de Dieu »,« Surprised by the voice of God » en anglais. Donc je l'ai lu et je vois ça, sa première expérience, cet homme professeur, il reçoit cet homme et il pense que ce jeune homme justement veut demander « Est-ce que je peux donner mon devoir ?» parce qu'ils ont beaucoup de devoirs, est-ce qu'il peut le donner la semaine prochaine? Ça arrive souvent qu'il demande un délai. Pas du tout, il est là, il parle beaucoup de choses, et pour la première fois, cet homme, Jacques Dier, il voit sur la tête, sur le front de cet homme, il voit juste un mot. Il regarde, jamais eu ça avant, il voit un mot, pornographie. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce qu'il ne connaissait pas, est-ce que je veux dire avec lui, il demandait, est-ce que tu nages dans la pornographie, est-ce que, il n'osait pas. Donc, mais il continue de parler un petit peu, et il parle de toutes sortes de choses, après une demi-heure, donc, il n'a pas demandé à ce jeune homme s'il avait cette habitude de regarder ce qu'il ne devait pas regarder, la pornographie, parce que quand même, c'est un étudiant dans une école biblique. Et le mot revenait, deuxième fois, plus grand encore, pornographie. Et là, après un certain temps, il dit, est-ce qu'il y a un problème dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu veut pour toi? Et il s'est ouvert. Et là, ils ont parlé, il dit, ce garçon, c'est pas seulement la pornographie, il y a des choses encore plus graves que ça. Et il a ouvert son cœur. Et ce professeur a dit, je n'en parlerai pas avec les autres. Personne ne le saura. Mais lui-même, ce professeur, il avait beaucoup de problèmes. Il dit, si moi je vais dire ce que Dieu m'a montré pour la première fois, peut-être il va se plaindre. Il va se plaindre aux autres professeurs ou aux directeurs doyens. Et ils vont pas comprendre que moi je vois des choses comme ça. C'est bizarre, ça va pas. C'est ça le problème quand on entre dans une autre dimension. Mais donc il a aidé ce jeune homme. Et ensuite, il a eu d'autres expériences, Jack Deere. Donc il a écrit ce livre surpris par la voix de Dieu. Et c'est un livre qui m'a fait du bien. C'est un livre qui m'a encouragé. Et ça, c'est intéressant, donc, que Dieu parle. Et j'ai pensé, donc, aussi à un exemple, donc, dans la Bible. Je vais vous donner deux exemples. Dieu veut nous révéler des choses. Et avant cela de donner ces deux exemples, je veux juste vous donner un verset qui m'a aidé énormément après ma conversion. Je ne sais pas si vous le connaissez par cœur, mais c'est Jean 10, versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Mes brebis entendent ma voix. Si vous êtes brebis du Seigneur par grâce, donc vous êtes devenu enfant de Dieu, est-ce que vous avez entendu directement la voix de Dieu, la voix de Jésus? Parce que c'est dedans. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Pour bien suivre le Seigneur, il faut entendre sa voix. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont quand même ce problème. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quel est le plan de Dieu pour moi? Souvent, on a entendu ce message où il a des livres à ce sujet. Qu'est-ce que Dieu a pour moi, jeune et moins jeune? Qu'est-ce qu'il va faire comme travail? Qu'est-ce qu'il va faire comme étude? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi pour choisir mes amis? Il y a tellement de gens qui sont venus chez nous, et puis on pose des questions souvent qui vont dans ce sens-là. Vous savez, Dieu, il a un numéro de téléphone. Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone de Dieu? C'est 333. Vous savez ça? Jérémie 33, verset 3. Vous connaissez ça, Jérémie 33? Call unto me. Comment ça commence en français? Invoque-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai de grandes choses, des choses que vous ne connaissez pas, car ainsi parle l'Éternel. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et Dieu dit, et je vous répondrai. C'est bien, hein? Jérémie 33, verset 3. À prendre par cœur pour la semaine prochaine. Alors, vous savez, ensuite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, parle-moi. Quand il y a des personnes qui viennent me voir, je demande pour ça. Seigneur, donne-moi ce don aussi, de recevoir des paroles de ta part. Et puis, il y a un ami qui est venu chez nous, un médecin chrétien qui a des problèmes. On le voit depuis trois ans, je pense, régulièrement. Et puis, on parle ensemble, il y a seulement quelques semaines. On est à la maison, Beryl et moi, avec lui, on est à trois. Et on parle de toutes sortes de choses pendant 2 heures. Et soudain, à la fin de 2 heures, le Seigneur me donne juste deux mots, qui n'ont rien à faire avec le sujet. Vers pâturage. Juste 2 mots. Mais le sujet n'est pas sur les pâturages. Vers pâturage. Et je dis, juste avant qu'il parte, je dis, mais il y a juste 2 mots, je ne sais pas pourquoi je le dis ça. Vraiment, je n'ai aucune idée, mais j'ai reçu de Dieu 2 mots pour toi. Vers pâturage. Et ses yeux s'ouvrent comme ça, il me regarde droit au visage, il dit, tu sais, John, pendant 2-3 semaines, chaque jour, je dis, Seigneur, mène-moi dans les verts pâturages. Mène-moi dans les verts pâturages. Et je trouve ça, c'est remarquable, parce que pour lui, pour cet homme, il a besoin de voir que Dieu sait son cœur, qu'il entend sa voix, qu'il entend sa prière, et le moment est venu. Donc quand on reçoit les paroles comme ça, c'est pour encourager le peuple de Dieu. Ce n'est pas un petit loisir, ce n'est pas un petit amusement, mais c'est nécessaire qu'on entende la voix de Dieu pour nous-mêmes comme pour les autres. Vous êtes d'accord? Amen. Et ça, c'est ma prière pour vous. Que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Parfois un mot, parfois une phrase, parfois un verset de la Bible. Mais le Seigneur m'a encouragé comme ça. Et c'est un encouragement aussi pour mon frère. Et Dieu veut nous parler. Et vous savez, il y a 2 exemples. Je vais le faire rapidement. Je pense à cet exemple de David. David, il avait péché. Et c'est bien peut-être juste de regarder un petit peu parce que le Seigneur m'a donné une pensée à ce sujet hier. C'est dans 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel est très facile à trouver. C'est juste après 1 Samuel. Je dis ça comme ça. Donc 2 Samuel, verset 26, chapitre 11. Chapitre 11. Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son ami, son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et le recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya un prophète, s'appelle Nathan, vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur, verset 4, arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David, le roi David, s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là !» Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « J'étais oint pour roi sur Israël, et j'étais délivré de la main de Saül, etc., etc. » Pourquoi, verset 9, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel ?» Il a méprisé, et ça c'est grave, en faisant ce qui est mal à ses yeux. « Tu as frappé de l'épée Uri, donc il a tué le mari. » Et puis verset 12, « Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Et je vais faire quelques applications à cela. Mais avant de faire, le Seigneur m'a donné une pensée hier après-midi, ce qui concerne justement cette histoire de Nathan. Donc, David, il a eu une pensée qui est venue. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, et le pauvre n'avait qu'une brebis, une petite brebis. Et verset 4, un voyageur arriva chez l'homme riche, chez David. Et j'ai eu cette pensée hier après-midi, ce qui concerne un voyageur. Qui est ce voyageur qui est venu, je me suis dit. Et j'ai dit à Béryl, c'est comme une flèche, une pensée qui venait de Satan. Il a vu une femme qui était pratiquement nue, c'était Bathsheba. Tentation, ça je comprends. Tout le monde a des tentations, ça c'est une chose. Mais après cela, de répondre à la tentation, le diable est là pour nous tenter. Et après, bien sûr, séduction, et après accusation. C'est toujours comme ça. Séduction, et après cela, on répond, accusation. Et on se sent coupable. Parfois une bonne culpabilité, parfois non. Et je dis, ce voyageur, c'est Satan qui est là tout le temps et il veut nous démolir. Il fait tout pour nous attaquer. Et ce voyageur est venu et il a dit, voilà, prends cette brebis de ton voyageur, de ton voisin. Vous comprenez? Vous me suivez? Et nous avons ce voyageur et tout le temps là, avec ses démons autour de nous pour nous faire mal. Et donc David, il a fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Et justement, pour appliquer cela, il y a quelque chose. David était complètement inconscient de la gravité de son péché, qu'il est devenu spirituellement sourd et aveugle. Lui qui a écrit 150, dans les 150 psaumes, il y a peut-être 110, 120 lui. Il y a d'autres, de Moïse et d'autres. Mais il y a beaucoup de psaumes. Donc il composait des chants inspirés par le Saint-Esprit. David entendait la voix de Dieu. Vous vous rendez compte? Et un jour, juste une pensée est venue, et dans ce sens, il a tué un homme, il a pris une femme, donc c'est l'adultère, et il a fait mal au cœur de Dieu. Ça, c'est la souffrance de Dieu. Quand un de ses enfants tombe dans le péché, il ne faut pas penser que ça fait pas mal à Dieu, ça fait mal à son cœur. Et je connais un petit peu le cœur de Dieu sur ce plan aussi, dans ma propre vie aussi. Et plus qu'on est conscient de ce qu'on fait, ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, plus qu'on dit, Seigneur, Merci pour ta patience. Merci pour ta grâce. Et John connaît la grâce de Dieu. Je connais l'amour de Dieu, la grâce de Dieu pour moi. Je suis ici debout devant vous par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes là ce matin. Que Dieu nous donne la vie. C'est par la grâce de Dieu que je me tiens devant vous. Parce qu'il y a quelques semaines, je ne pouvais pas marcher pratiquement parce que j'ai une épine crânienne. C'est quand même bizarre. Berry a son pied gauche, sa jambe gauche avec le sciatique, et moi c'est mon pied droit. Et il n'y a pas si longtemps, nous venions justement de notre kiné et à Tourcoing, et il y avait la femme de pasteur qui nous a vus à distance, mais elle ne savait pas que c'était nous. Et on marchait comme ça ensemble. Et elle se dit, qui sont ce petit vieux couple-là? C'était nous. Mais ça fait mal. C'était pas le pied. Ça faisait vraiment mal. Donc je suis debout. Maintenant, je peux marcher. Hier, j'ai tondu mon jardin. Pendant 2 heures, j'étais dans le jardin. Il me semble bien. J'ai perdu 1 kilo comme ça. C'est magnifique. Dieu est bon. Mais c'est par grâce qu'on est comme on est. Et vous ne trouvez pas que c'est merveilleux que Dieu nous a donné la faculté de notre corps pour guérir? Souvent, on ne prie même pas. On court vers un médecin. Mais parfois, on n'en a pas besoin, c'est la patience. Ça, c'est la patience de Dieu. Dieu veut vous donner cette patience. Alors, David, il a répondu. Il est allé trop vite, il est tombé dans le panneau. Et puis, quand ça arrive, c'est comme un désert. David était complètement inconscient de la gravité de son péché. Il est devenu spirituellement sourd et aveugle. C'est grave. Il s'est trouvé donc dans un désert spirituel et il n'a plus entendu la voix de Dieu. Il avait besoin d'un homme comme Nathan, le prophète, qui a parlé à son cœur parce qu'il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu lui-même. Application. Vous et moi, nous pouvons nous trouver dans un désert spirituel à cause d'un péché commis dont on n'est pas conscient. Et bien sûr, on peut se trouver dans un désert ou un tunnel sans avoir péché et sans le comprendre. Il y a des chrétiens qui se trouvent dans ce désert, ça veut dire qu'ils ne savent pas où ils sont. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Mais il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont péché. Et c'est très rusé. Cela peut vous arriver, ça peut m'arriver. Et je crois, pour les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, plus qu'on fait du progrès, on prend l'âge spirituel, plus qu'on peut être tenté. On n'est pas à l'abri. Ne croyez pas que les pasteurs n'ont pas besoin de vos prières. Parce qu'ils sont attaqués aussi d'une façon très subtile. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être l'argent. Ça peut être le sexe. Ça peut être la gloire. Mais nous sommes tous tentés. Ne pensez pas que vous allez arriver à un certain moment dans votre vie. Dites, maintenant, je ne peux plus être tenté quand même. C'est le moment qu'on peut tomber. Parfois, on peut se trouver dans un désert à cause d'un péché de dépendance. Tu penses à l'alcool, tu penses à la nicotine, tu penses aux drogues, tu penses à la télé, tu penses au téléphone. Partout, les gens, ils sont devenus esclaves de leur téléphone. Le sexe. Ou, on peut pécher aussi par une mauvaise habitude, ou par la colère, par la haine contre quelqu'un, par l'amertume et la pitié de soi. Combien de chrétiens souffrent encore de l'amertume? Ils ne sont pas encore délivrés. Ou pitié de soi. Vous savez, c'est toujours moi. Ça arrive toujours à moi. Pauvre chat, c'est difficile. On veut bien... Ah non, arrête. Peut-être quelqu'un a besoin de la délivrance de Dieu pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Et là, vous avez besoin parfois de quelqu'un d'autre, comme David avait besoin de Nathan. Ce n'est pas toujours facile de donner la parole qu'on a reçue de Dieu pour quelqu'un d'autre, comme ici pour le prophète Nathan. C'est toi qui es cet homme, Nathan a pu dire, et ça au roi. Mais pourquoi Dieu l'a fait pour restaurer celui qui a péché? Il s'agit ici de David, qui comme roi a dû être un exemple pour son peuple. Et cette restauration est devenue possible pour David par la repentance et la confession de son péché. On trouve ça en psaume 51. Et ça, quelque chose que je vais vous annoncer, ce qui concerne justement le pardon de Dieu. Est-ce que vous savez que si vous êtes chrétien, quand vous êtes devenu chrétien, chrétienne, vous n'avez plus besoin de demander pardon à Dieu? Est-ce que vous saviez ça? C'est bizarre que je dis ça. Parce que le pardon est déjà acquis. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est mort pour mon péché, du passé, du présent et de l'avenir. Il est mort pour tout ça. Je suis pardonné, passé, maintenant, présent et l'avenir. Vous saviez ça? Alors quand on tombe dans le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Confesser. C'est la confession de notre péché. Mais on a reçu déjà le pardon. 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est une découverte moi aussi ce que je dis maintenant. Pas si récemment, c'est récemment que j'ai trouvé ça, je dis mais c'est bizarre, on demande toujours pardon, pardon, mais je suis pardonné. Mais il faut confesser, ça veut dire être d'accord avec Dieu, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Et le Seigneur dit, si vous confessez vos péchés, si nous confessons nos péchés, Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous vous rendez compte? Il est juste et fidèle. Il est juste parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et il est fidèle parce qu'il tient sa parole. Vous vous rendez compte? Le diable est là pour nous mettre sous la culpabilité tout le temps. Sous le fardeau tout le temps. Et le Seigneur est là pour nous délivrer de nos fardeaux. Dieu n'est jamais dans votre vie, notre Père Céleste n'est jamais là dans ma vie pour me mettre sous un fardeau de culpabilité. Important ça. Dieu est le Dieu de délivrance. C'est important, hein. Donc, c'est pas possible qu'il y ait 2000 ans, Jésus-Christ est mort, il a prié avec son corps, son sang pour mes péchés. Et donc, il m'a donné le pardon. Il y a 2000 ans déjà du passé parce qu'il n'est pas le temps pour Dieu. Ça, c'est important de savoir. Donc, pour toute notre vie, pour tout ce qu'on a fait, le pardon est acquis déjà. Mais c'est à nous de confesser, être sensible, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma vie, qui n'est pas à ta gloire? Ne fais pas ça tout le temps, parce que ça, c'est une introspection morbide. Mais de temps en temps, c'est bien de dire, Seigneur, si je n'entends pas la voix, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? David n'a pas fait ça en ce moment-là. Il avait besoin de Nathan. Pour terminer, le Seigneur nous parle, il m'a parlé il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines. 3 semaines, pas plus. Un dimanche matin, je suis assis avec Beryl, comme ça, dans notre église, au culte, dimanche matin. Il y a une nouvelle jeune fille que je n'ai jamais vue, une jeune femme, qui est là, juste devant. Qui est là, moi je suis là, elle est là. Et le Seigneur parle à mon cœur. Et le Seigneur me dit, parle à cette fille, elle n'a pas de papa. Après le culte, je le prends à part et je dis, est-ce que je peux vous parler? Et je suis dehors avec elle, là, de ce bâtiment, je suis dehors avec elle. Et je dis, comment tu t'appelles? Elle dit, Déborah. Je dis, tu sais ce que ça veut dire ton nom? Abeille. Le nom Déborah, c'est une abeille. Ding, ça donne du miel, c'est bon. Elle ne savait pas. Je dis, est-ce que je peux te poser une question? Je ne sais rien de ta vie, je ne te connais pas. C'est comme Dieu m'a parlé. Est-ce que tu as encore ton papa? Non, elle dit. Je n'ai pas de papa. D'accord. J'ai dit, tu es venue, tu étais contente? Oui, elle est très contente. Elle a apprécié les chants, les messages. Et j'ai dit, mais tu as quel âge? 24 ans. J'ai dit, mais juste avant 24 ans, moi je me suis converti. Et il y a un verset qui m'a aidé. Est-ce que je peux le lire avec toi? Jean chapitre 1, verset 12. Ça parle de la lumière, c'est Jésus qui est venu dans le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, au nom de Jésus, qui ont mis leur confiance en Jésus, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Donc, on lit ce verset ensemble, j'ai prié avec elle et elle est partie. Le dimanche après, elle est revenue et j'ai dit, Déborah, s'il te plaît, il y a quelque chose que j'ai oublié dimanche passé quand j'ai parlé avec toi. Je t'ai donné un verset, Jean chapitre 1 verset 12, on a parlé de la conversion. Elle dit, je me suis converti toute seule dans ma maison, dans mon appartement cette semaine. J'ai donné mon cœur à Jésus. Alléluia. Il est devenu enfant de Dieu, tout seul. Et j'ai dit, mais j'ai oublié quelque chose de dire. On a lu un verset. On a lu un verset dans l'évangile de Jean, mais j'ai dû te dire de lire quand même tout l'évangile. Il y a tellement de choses dedans. Elle dit, je l'ai fait déjà. Cette semaine, j'ai lu tout l'évangile de Jean. Oh, alléluia, ça fait plaisir. Sans que je l'ai dit. Et il dit, maintenant j'ai commencé avec 1 Corinthiens. J'ai dit, mais il faut commencer avec l'évangile, après l'évangile, les 4 évangiles, il y a les actes des apôtres. Et là, c'est, dans les actes des apôtres, les gens étaient dans la même situation que nous aujourd'hui. Jésus n'était plus là, mais c'est merveilleux, c'est une chose qui me fait du bien. D'accord? Donc je parle avec elle, et puis je l'ai invitée chez nous. Elle est venue dimanche passé. Ce dimanche passé, elle était chez nous, Déborah, pendant 3 heures. Et j'ai dit, mais je veux te juste poser une question. Tu te souviens, quand je t'ai vu pour la première fois, je t'ai demandé, ce qui concerne ton papa, tu n'as plus ton papa, Noël dit, depuis quand j'avais 7 ans. Tiens, depuis 7 ans, je n'ai plus de papa. Dit, est-ce qu'il a une maladie grave? Noël dit. Et là, j'ai senti son cœur. Parce qu'elle était en colère contre son père, je pense. Elle avait des moments difficiles. Elle dit, mon papa s'est suicidé. Il n'a pas écrit une lettre. On ne sait pas pourquoi. Il n'y avait aucune raison. Donc mon papa est parti comme ça. Et moi, comme petite fille de 7 ans, j'ai eu beaucoup de moments difficiles. Je dis, papa, notre Dieu est devenu ton papa céleste. C'est ça qu'il faut retenir maintenant. Et ça, c'est merveilleux que Dieu m'a donné juste une parole pour elle. Pour poser cette question, elle n'a pas de papa, mais Dieu est devenu, dans un temps assez court, son papa céleste. Vous savez, la plus grande grâce qu'on peut avoir, c'est d'avoir un papa céleste qui reste. Moi, je n'ai plus mon père. Il est décédé aux États-Unis. Le papa de Beryl est parti aussi. Mes parents étaient chrétiens, les parents à Beryl chrétiens. Les parents de Beryl étaient des exemples pour nous. Mais on n'aura pas toujours des parents sur terre. Mais notre papa céleste est éternel. Et quand je me suis converti, mon papa terrestre, il était courageux, mais il ne s'est pas vraiment occupé de moi, parce qu'il était très pris. Il ne m'a jamais demandé, par exemple, pour voir mes notes à l'école ou comment ça allait à l'école. Je ne me souviens pas une fois qu'il m'a posé des questions. Et comme jeune garçon, on a besoin d'un papa. Mais quand je me suis converti à 21 ans, c'était pas difficile d'accepter Dieu comme mon père céleste. Et notre Père Céleste veut nous parler. Il dit, tu es mon fils, tu es ma fille, je veux te parler. Est-ce que tu es disponible pour entendre ma voix? Et ça, c'est ma prière pour cette assemblée. Ce n'est pas seulement pour Jean-Luc ou pour Annette ou pour d'autres ici qui ont certaines maturités chrétiennes, mais pour nous tous. Est-ce que vous voulez entendre la voix de Dieu qui veut faire du bien? C'est pour vous-même, c'est comme pour les autres. Et je ne suis pas mieux que les autres, mais j'ai prié pour ça. Seigneur, parle-moi. Je vais être une bénédiction pour mes frères et sœurs. Et ça, c'était ma prière ce matin. Seigneur, bénis-moi parce que je vais devenir une bénédiction pour les autres. Donc ça, c'est mon message. Assez simple peut-être, mais pour vous et moi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux prier? Est-ce que vous voulez vous mettre debout? Seigneur, ce matin, nous sommes en ta sainte présence. Tu veux nous faire du bien, tu veux nous parler, et tu veux nous visiter ce matin. Par ton Esprit Saint. Et je demande pour mes frères et sœurs ici, Seigneur, que tu les visites ce matin avec les dons que tu as pour eux. Et il y en a beaucoup. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau, rempli d'eau. Merci, Seigneur, pour tous ces cadeaux que tu as pour chacun de nous, pour chaque garçon, chaque fille ici, tes enfants bien-aimés. Je demande, Seigneur, que tu nous visites aujourd'hui et dans les jours à venir avec les paroles qui viennent de toi. Seigneur, je demande vraiment pour mes frères et sœurs que tu fasses du bien pour eux-mêmes, pour leur famille, dans leur travail, dans les études, Seigneur, dans leur vie, peut-être retraités, peut-être on cherche du travail. Je demande vraiment, Seigneur, que tu nous fais des surprises. Tu es un Dieu de surprises. Tu m'as montré ça, Seigneur, pour cette assemblée. Il y a des surprises pour toi. Il y a des surprises. Dieu est le Dieu de surprises pour vous. Il veut vous surprendre par sa puissance, par sa présence, par ses paroles. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez recevoir? Est-ce que vous voulez recevoir ce matin ce que Dieu veut vous donner? Est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir ce que Dieu a pour vous? Il passe par les rangs. Il dit, mon garçon, ma fille, je veux te parler. Je veux te donner des choses que tu ne connais pas. appelle-moi, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Dieu est un Dieu de surprise. Il passe par les rangs ce matin. Il dit, je suis content que vous êtes venus. Vous avez pu rester à la maison, vous avez pu rester dans votre lit, mais vous êtes ici ce matin parce que je veux vous visiter, je vous aime. Je suis votre Dieu, je veux être votre papa céleste, en pratique. Je veux avoir des chrétiens qui sont engagés, pas seulement théoriques, mais la vie chrétienne en pratique. Alléluia. Dieu veut vous faire du bien ce matin. Recevez, recevez maintenant. Demande le Seigneur, juste 30 secondes, une minute, demande le Seigneur, dont vous avez besoin. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Mais si vous avez besoin de quelque chose, demande maintenant. Et je crois que Dieu va répondre à sa façon. C'est le moment. Demandez. Et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Jésus a dit à ses disciples, Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. » Je vous donne juste quelques secondes de silence. Parlez avec votre papa.